Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Ils ont traversé toute l'Europe jusqu'au Grand Nord, la Finlande. Mais arrivés à leur destination, ces Irakiens, Afghans ou Somaliens se sont vus refuser leur statut de réfugiés. Au cours de ces 6 derniers mois, 1450 demandes d'asile ont été déboutées pour 1400 acceptées. Un retournement dans la politique d'accueil du pays depuis que les contrôles aux frontières ont été rétablis en 2016. Sans statut de réfugié, mais pas sans droit. Voilà comment une ONG financée par la région d'Helsinki cherche à leur venir en aide. C'est le reportage sur place de Laurent Berthaud.
En 2015, Haider Al-Jouraïj fuit l'Irak et après 6 mois passés dans un centre d'accueil en Finlande, il obtient le statut de réfugié. Depuis, il essaie de maîtriser le finnois et tente de s'adapter au rude climat. Aujourd'hui, il travaille pour l'Institut des Diaconesses, l'ONG chargée par la région d'Helsinki d'aller à la rencontre des déboutés du droit d'asile. Plusieurs fois par semaine, il part en maraude dans la capitale. Je le retrouve dans le grand centre commercial à 2 pas de la gare.
On essaye de repérer ces personnes une fois qu'elles ont quitté le centre d'accueil pour réfugiés, car elles n'ont plus le droit d'y rester. On va dans les gares routières, dans les restaurants, chez les barbiers, et puis on commence à être connu, alors parfois on reçoit un coup de fil, comme maintenant.
Hello Darham, hello Galbi Shonek.
Cette fois-ci, c'est un compatriote qui a besoin de se faire soigner. Haider lui donne une adresse et lui explique comment s'y rendre.
Donc on entre dans la gare centrale d'Helsinki.
Et c'est là que nous rencontrons Ali, 43 ans. Cet Irakien originaire de Basra a déjà déposé 3 demandes d'asile, comme la loi l'y autorise, et essuyé 3 refus, une décision qu'il ne comprend pas.
Moi, je remets en cause la capacité des services finlandais de l'immigration à déterminer quelle zone est vraiment à risque en Irak. Pourquoi ne pas accorder le droit d'asile aux gens qui viennent de provinces instables où il n'y a pas de sécurité? En fait, nous ici, on a fini par comprendre que les personnes chargées d'examiner notre dossier en Finlande ne connaissent pas la vraie situation sur place. Et c'est catastrophique pour nous.
Ali a encore 2 possibilités de recours, d'abord devant un tribunal administratif, puis, en cas de décision négative, devant une dernière instance d'appel. Mais il n'a pas trop d'espoir. Haider tente de lui remonter le moral.
Tous ces gens sont stressés, ils ont peur, ils sont abattus, car ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. En fait, ils sont désespérés. Et nous, on essaye d'établir le contact avec eux, de construire une relation de confiance. On essaye de voir comment les aider. On n'est pas chargé de les renvoyer chez eux, car on n'est pas de la police. On n'est pas non plus autorisé à leur donner les papiers pour rester ici. C'est en tant qu'être humain que nous les aidons.
L'Institut des Diaconesses a donc ouvert dans l'un de ses bâtiments un appartement de jour pour accueillir ces migrants. On leur sert une boisson chaude, à manger, ils peuvent prendre une douche, laver leur linge, s'y reposer. Un psychologue est également présent. On les informe aussi qu'ils ont encore des droits en Finlande.
D'abord, ils ont le droit à une aide sociale, des coupons pour acheter à manger dans les magasins d'une valeur de 50 euros et des tickets de bus pour circuler dans Helsinki. Ils peuvent aussi bénéficier de soins gratuits pour voir un médecin, une infirmière, un dentiste, un psychologue, un psychiatre. Ils ont droit également à une aide juridique, voire un avocat pour savoir s'ils ont le droit de redéposer une demande d'asile ou voir s'il y a une autre possibilité de rester légalement dans ce pays. Et puis, bien sûr, le logement. Il y a des refuges d'urgence et des centres d'accueil de jour pour les protéger du temps froid.
Des solutions qui ne peuvent être que provisoires. L'autre rôle du centre, c'est d'inciter autant que possible les déboutés du droit d'asile à rentrer dans leur pays. Mika Paasolainen, responsable de ce service à l'Institut des Diaconesses.
On ne leur dit pas qu'ils doivent partir, on les informe de la possibilité qu'ils ont de repartir volontairement dans leur pays. Mais la décision leur appartient. S'ils ne veulent pas repartir, on ne les force pas. On leur dit que sans statut, il est impossible d'avoir un logement décent, ni d'aide de la part de l'État. Dans ces conditions, c'est difficile de rester en Finlande, surtout en hiver. Certains l'admettent, d'autres répondent qu'ils préfèrent vivre ici sans papier que de risquer d'être tués en rentrant dans leur pays d'origine.
Depuis le début de ce programme, en juillet 2017, seules 18 personnes ont accepté de bénéficier d'un programme de retour volontaire. L'Institut des Diaconesses travaille en coopération avec l'Office international des migrations, mais aussi avec les services finlandais de l'immigration, qui lui demandent parfois des informations sur les migrants.
Ils le font, mais en fait, ils demandent des statistiques générales. Combien de gens sont ici? Quel est leur pays d'origine? Quelles informations leur a-t-on communiqué? Combien d'entre eux ont décidé de rentrer volontairement dans leur pays? Et on s'est bien mis d'accord avec eux pour qu'ils ne demandent jamais le nom de nos clients.
Des clients à qui la Finlande continue d'accorder des droits tout en se montrant ferme. En 2017, 905 décisions d'expulsion ont été prononcées, dont 50 contre des mineurs. Ce qui ne signifie pas pour autant que toutes ces personnes déboutées du droit d'asile ont quitté le pays, précisent les services finlandais de l'immigration.
Une Europe sans frontières, en tout cas dans l'espace Schengen, c'est aussi une Europe sans frontières pour les délinquants. Fort de ce constat, et pour ne pas laisser aux malfaiteurs une longueur d'avance, les polices nationales de plusieurs pays ont uni leurs forces. Aux Pays-Bas, une trentaine d'agents belges, allemands et néerlandais luttent ensemble contre la criminalité transfrontalière. Alice de Baptiste de la RTBF s'est rendue dans leur bureau à Erlen.
C'est en allemand, en français et en néerlandais que les ordres sont donnés ici. Trois hommes sont à la tête de ce régiment transfrontalier. Daniel Collin est le coordinateur belge du centre EPIC. Il nous fait faire le tour du propriétaire.
Vous avez ici la grande salle. Nous avons opté à l'époque pour un open space, donc un espace ouvert, pour permettre justement aux collègues de bien pouvoir communiquer, de pouvoir s'échanger facilement des informations. Alors vous voyez plusieurs grandes tables de travail avec 6 ou 8 collègues par table de travail. Et ce qui est important de noter, c'est qu'à chaque table, vous avez des policiers belges, allemands et néerlandais.
30 collaborateurs issus des différents services de police des trois pays pianotent sur leur ordinateur et répondent au téléphone. Le rôle, vaincre la criminalité aux frontières. Un vrai défi à l'heure actuelle avec la disparition des contrôles aux douanes. Les criminels peuvent maintenant circuler librement, mais pour la police nationale, c'est plus compliqué.
Nous les policiers, nous avons quand même quelques obstacles lorsque nous devons franchir des frontières, des obstacles légaux, alors que les malfaiteurs, eux, circulent dans la région frontalière sans aucun problème. Ils commettent un vol de véhicule, par exemple, aux Pays-Bas. Avec le véhicule volé, ils vont aller attaquer une banque en Allemagne et puis ils vont revenir avec le butin en Belgique. Donc ça, c'est très clair. Les malfaiteurs utilisent les frontières.
C'est donc pour déjouer ce type de stratégie que ces policiers sont rassemblés ici. Ils répondent aux questions que leurs collègues leur envoient depuis le terrain. Les sujets sont très variés. Werner Neumann fait partie de l'équipe de Daniel Collin. Il est en train de traiter une demande d'une patrouille située dans le Limbourg belge.
Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui?
Ici, par exemple, c'est une question concernant... ça concerne le milieu, donc on a trouvé des déchets. Ouais. Quand on ne sait pas d'où ça provient, alors on me demande donc d'analyser une plaque d'immatriculation étrangère, donc ici dans ce cas-ci une plaque allemande, et plusieurs suspects donc qui étaient dans le véhicule. Alors ils veulent juste savoir s'ils ont des antécédents judiciaires, s'ils sont connus là-bas, et voilà.
Ici, la question n'est pas urgente, mais dans d'autres cas, il est primordial d'agir rapidement.
Il y a des questions urgentes, qu'on appelle ça, c'est-à-dire, c'est des questions dont les collègues sont par exemple sur le terrain, ils ont contrôlé un véhicule ou une personne, et à ce moment-là, il leur faut l'information directement.
Le centre EPIC fournit donc un appui aux forces policières nationales, mais il ne s'arrête pas là, il investigue aussi. Quelques couloirs plus loin se trouvent les bureaux d'analyse. Dans ce petit local, une équipe d'enquêteurs épluche minutieusement des PV dressés par la police des trois États membres. Patrick est le détective belge.
Donc ici, tous les matins, ce que nous faisons, c'est lire les rapports des services de police belges, de l'Eurégio, un peu plus loin aussi, de Bruxelles, Charleroi, Anvers même, et ceux de l'Allemagne également. Et alors, on essaie d'analyser ces données qu'on trouve là-dedans, voir si par exemple une personne qui apparaît dans un rapport de la police allemande apparaît aussi dans un rapport belge.
Et s'il y a un lien établi entre les deux affaires, le centre contacte les policiers sur place et les agents prennent alors le relais. Il y a un an, les enquêteurs du centre EPIC sont parvenus à démanteler un trafic international de voitures. Mais l'arrivée de ce type de coopération transfrontalière a aussi poussé les malfrats à s'adapter. Les modus operandi se complexifient. Les malfaiteurs jouent à saute-mouton entre les États membres. C'est l'éternel jeu du chat et de la souris, un jeu qui a mené à la création d'une soixantaine de centres de coopération policière et douanière comme celui-ci en Europe. Et le centre d'Erlen est souvent pris comme modèle. Daniel Collin en est assez fier.
J'ai la prétention de penser que nous avons tellement bien évolué que c'est maintenant plutôt d'autres centres qui viennent plutôt chercher les idées chez nous. Pas plus tard que la semaine passée, on a eu des collègues turcs qui sont venus ici en visite parce qu'ils sont en train de mettre en place un CCPD entre la Turquie, la Bulgarie et la Grèce. Et ils viennent un petit peu chercher, comme nous l'avons fait à l'époque, les bonnes idées, les bonnes pratiques chez nous.
Un modèle qui fait ses preuves. Au total, 1 million d'informations sont échangées par an entre les différentes polices européennes.
Alors que débute en France le débat sur le salaire des enseignants au mérite, un pays l'expérimente déjà, le Royaume-Uni. Chaque école établit sa grille d'évaluation, ce qui contribue à créer un mercato des enseignants. Avantages et défauts d'un tel système dans un établissement londonien avec Marie Billon.
Régulièrement, Jeff va assister aux leçons dispensées par ses collègues. Il s'assoit dans la classe comme un élève, sauf qu'il est là pour évaluer l'enseignant. Jeff est proviseur adjoint d'un collège-lycée du sud-est de Londres. Il fait partie de l'équipe en charge des évaluations des employés. Et lui-même n'y échappe pas non plus, puisqu'il enseigne deux langues et l'éducation religieuse. Chaque école établit ses propres critères, mais les thèmes sont souvent les mêmes. Qualité des leçons, résultats et comportements des élèves et implication de l'employé dans la vie de l'école. C'est en fonction de tout cela que l'équipe pédagogique décidera si l'enseignant a ou non droit à être payé plus l'année suivante. Enseignant depuis près de 20 ans, Jeff n'est pas très content de ce système relativement nouveau. Ce n'est pas tant le fait de juger le travail des profs qui le dérange, mais plutôt ce sur quoi ils sont jugés.
L'enseignant ne contrôle pas tous les facteurs qui influencent les résultats de ses élèves. Un enfant peut par exemple vivre un deuil. Ce qu'il fait après l'école peut avoir une influence sur son travail. En même temps, un enseignant peut être tenté de donner de bonnes notes à sa classe pour obtenir son augmentation. Et quand les examens de fin d'année arrivent, on se rend compte que les enfants n'ont pas le niveau escompté.
Il y a 9 paliers d'augmentation au mérite. Un prof performant atteindra donc le plafond en 9 années maximum. Et si l'État n'augmente pas la paie des fonctionnaires de l'éducation, sa fiche de salaire stagnera rapidement. Selon le gouvernement, en 2016, 37% de ceux qui avaient droit à une récompense ne l'ont pas eu parce qu'ils avaient atteint le niveau maximum de leur paye. Mais d'après les chiffres des syndicats, 15% n'y ont pas eu droit non plus à cause des budgets trop serrés, sans lien donc avec leur performance. Cela crée une sorte de mercato des enseignants, dit Jeff. Il y a donc 9 paliers, mais un super prof peut les monter 2 à 2. Un établissement peut par exemple recruter un enseignant qui est au niveau 3 en lui proposant un salaire au niveau 5 ou 6, laissant ainsi les écoles les moins aisées avec les profs les moins demandés. Sauf que selon Gareth Young, d'un syndicat des enseignants, les écoles auraient plutôt tendance à faire le contraire, faire stagner les fiches de paye maintenant qu'elles ne sont plus tenues de les faire progresser.
Certains des objectifs sont simplement impossibles à atteindre. Demander à tous les élèves d'atteindre une certaine note, par exemple. Une école peut dire tout le monde doit avoir un B, alors que la moyenne nationale est C, ce qui est injuste.
Un établissement peut aussi diminuer le salaire d'un professeur s'il n'est pas satisfait de ses performances, une option qui reste pour l'instant a priori théorique.
Dix ex-ministres et premier ministre grec dans la tourmente, accusés d'avoir touché des pots de vin du groupe pharmaceutique suisse Novartis. Hier, le premier ministre Alexis Tsipras a enclenché la procédure parlementaire pour une commission d'enquête. Bonjour Charlotte Stivenard à Athènes.
Bonjour.
L'affaire est à la une des journaux depuis plusieurs jours et les révélations sont spectaculaires.
Oui, car ce sont des figures de la vie politique en Grèce qui sont visées. Hein. Il y aurait notamment l'ancien l'ancien Premier ministre conservateur, Antonis Samaras, l'ancien ministre de la Santé, aujourd'hui numéro 2 du parti, Andonisi Oriadis, ou encore son prédécesseur quelques années plus tôt, Dimitris Avramopoulos, aujourd'hui commissaire européen aux affaires migratoires. Selon la presse grecque, en tout, une dizaine de personnalités politiques de premier plan ont été citées dans l'enquête du parquet anticorruption sur le géant pharmaceutique suisse.
Et de quoi les accuse-t-on ?
Elles seraient soupçonnées d'avoir reçu des pots de vin. Les médias grecs parlent de valises d'argent. Si l'enquête est avérée, plusieurs millions auraient été distribués par Novartis à ces hommes politiques haut placés et à des fonctionnaires. L'objectif supposé, s'assurer qu'ils fixent les prix du marché des médicaments à des tarifs avantageux pour Novartis, c'est-à-dire plus cher que la normale.
Et ces personnalités politiques, Charlotte, sont toutes issues de l'opposition.
Oui, il s'agit de membres des deux grands partis qui se sont succédés au pouvoir jusqu'à l'arrivée de la gauche radicale, hein, les socialistes du PASOK et les conservateurs de la Nouvelle Démocratie. Ils ont aussitôt réagi, selon la presse grecque, toujours Antonis Samaras, l'ancien Premier ministre, a décidé de porter plainte contre l'actuel Premier ministre, Alexis Tsipras, et son ministre adjoint à la justice, Dimitris Papagelopoulos. Le commissaire européen aux affaires migratoires, Dimitris Avramopoulos, a lui aussi nié toute implication. Dans une conférence de presse, il a parlé de machination. L'opposition, dans son ensemble, reproche au gouvernement de lancer cette affaire au moment où il est empêtré dans des difficultés politiques après une manifestation importante sur la question macédonienne la semaine dernière.
Enfin, le parquet a transmis l'affaire à la Voulie, le Parlement grec.
Oui, c'est la procédure, hein, car elle concerne des anciens membres de gouvernement. Depuis 2 ans, une première commission parlementaire spéciale enquête déjà sur les scandales de corruption dans le secteur de la santé. Elle est présidée par Andonis Balomenakis, député de Syriza, la gauche radicale au pouvoir depuis 3 ans. Elle avait été mise en place après que les autorités aient, selon Andonis Balomenakis, constaté que les prix des médicaments et des articles utilisés dans les hôpitaux étaient beaucoup plus élevés que nécessaire, plus élevés que dans les autres pays européens. Il estime qu'une nouvelle commission spéciale pourrait être créée spécifiquement pour enquêter sur le cas Novartis. La Voulie décidera de la marche à suivre.
Merci Charlotte Stivenard à Athènes. Et encore une arnaque dans un restaurant à Venise. Les affaires se succèdent et se ressemblent. Cette fois, 4 touristes japonais ont halluciné en voyant arriver la note. 4 steaks florentins, 1 friture de poisson et 2 verres de vin rouge pour un total de 1143 euros. Une note salée qui est devenue virale. En Italie, Cécile Debarge.
En sortant du restaurant, leur compte bancaire délesté de plus de 1000 euros, les 4 étudiants japonais ont compris que quelque chose clochait. En rejoignant leur petit groupe de touristes, 3 étudiantes racontent, elles, avoir payé 315 euros pour 3 plats de pâtes et 2 bouteilles d'eau. Venise est chère, certes, mais là, c'est une arnaque. De retour à Bologne, où ils étudient à l'université, les étudiants portent plainte contre le restaurateur un peu trop gourmand et aussitôt informés, les membres de la plateforme civique vénétienne Groupe 25 Avril montent au créneau et relaient la plainte qui devient virale. Les commentaires sont indignés et fatigués de cette énième histoire de notes de restaurant trop salées à Venise. Interrogé par Il Giornale, le serveur du restaurant tente une défense peu crédible. Le vin, dit-il, était le plus cher de la carte. La friture de poisson était en réalité une friture de homard dont les jeunes japonais auraient demandé 4 morceaux de près d'un kilo. Normal, répond-il, qu'avec 4 kilos de homard, le compte soit élevé. Sauf que le restaurant a omis de donner à ses clients un reçu fiscal avec le détail de la commande. Les Japonais, eux, ont leur ticket de carte bleue comme preuve et c'est à la justice italienne de trancher. Le restaurant a déjà été condamné à payer 20 000 euros d'amende, mais le mal était fait et la publicité a été catastrophique pour la ville. Mortifiés par cette mésaventure, les professionnels du tourisme se sont mis en 4 pour faire oublier cette mauvaise expérience. Les jeunes touristes se sont vus offrir par les hôteliers de Venise 2 nuits dans un hôtel 4 ou 5 étoiles, un tour de la ville en gondole et ils ont même été chaleureusement invités par le maire de Venise à revenir. Pour le moment, on ne sait pas encore s'ils ont accepté.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique émission, puis Accent d'Europe. Et sur les réseaux sociaux, dans quelques instants, un nouveau point avec l'actualité sur RFI.